Les téléspectateurs,
vous aussi. J'ai entendu ça aux infos. Les sociaux, les chrétiens, les téléspectateurs. Hello!
Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M traverse l'Atlantique.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
L'entrée en fonction du 45e président des États-Unis a consisté à cogner de manière spectaculaire sur les journalistes, qualifiés, je cite, d'êtres humains parmi les plus malhonnêtes de la planète. S'ensuit une déclaration choc du porte-parole de la Maison-Blanche, je cite encore, l'investiture de Donald Trump a réuni la plus grande foule jamais vue à Washington et tous les médias qui insinuent le contraire font un travail honteux. S'ensuit une déclaration de la conseillère du président sur NBC, je cite enfin, le porte-parole ne dit pas des choses fausses, non, il propose des faits alternatifs. À la Maison-Blanche, il n'y a plus de frontières manifestement entre les faits et les mensonges, mais il y a désormais un mur érigé entre les médias amis et les médias traîtres. Avec nous ce matin, Nicolas Vinocure, je l'ai bien dit ?
Absolument,
correspondant du site d'information Politico, et Adam Nociter, journaliste au New York Times. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Alors, comment les journalistes politiques américains pourront-ils désormais exercer leur métier ? Question à la fois éthique, bien sûr, mais aussi concrète, très pratique.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors sur le site du Monde, ça a été publié hier, et bien je vous invite à consulter le lexique produit par les décodeurs, un lexique très utile en ces temps de crise de l'information. On va le passer en revue ensemble, il est signé William Oduro. On va passer en revue ces termes qui bouillonnent dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on appelle un fait alternatif ? Eh bien, le quotidien britannique Le Guardian cite un dialogue d'Alfred Jarry. Vous voyez ce cheval ? Dites-moi ce que c'est. C'est un cheval ? Non, c'est un vaisseau spatial. Le concept a été inauguré, je vous le disais, sur NBC par Kellyanne Conway, qui est conseillère de Donald Trump. Dan Rather, grande figure du journalisme télé, a publié immédiatement une réaction scandalisée sur Facebook. On l'écoute.
Listen. Vous savez, 2 plus 2 égale 4. C'est un fait. Il n'y a pas d'alternative à ça. Cette idée de fait alternative, c'est un outil de propagande. Les faits et la vérité sont à la base même de notre démocratie et permettent d'exercer une citoyenneté informée.
Alors évidemment, je vais faire réagir et commenter mes invités, mais on continue le lexique pour commencer. Qu'appelle-t-on les fake news ? Eh bien, on les traduit souvent à tort en français par fausses informations, alors que la fake news, elle n'est pas seulement erronée, elle est volontairement trompeuse. En ce sens, elle se différencie du hoax. Vous savez, ces rumeurs, ces canulars qui se propagent sur Internet. La fake news, en fait, elle reprend tous les codes de la vraie news, tous les codes de la presse et des médias.
This will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people.
Qu'appelle-t-on post-vérité? Eh bien, c'est l'hypothèse selon laquelle l'émotion et la croyance comptent plus que les faits. Le Brexit en Grande-Bretagne et la campagne présidentielle américaine ont fait entrer ce terme dans le dictionnaire d'Oxford. Et enfin, qu'appelle-t-on la réinformation? Eh bien là, on quitte le vocabulaire des journalistes pour basculer dans celui des militants d'extrême droite. Il ne s'agit plus simplement de contredire les faits, mais via les blogs et les réseaux sociaux, de renverser toute la grille de lecture qu'en font les médias. Alors, Nicolas Vinocure, Adam Nociter, vous voulez réagir. Pour vous, c'est une situation inédite aux États-Unis. Mais d'abord, dans vos formations, dans vos parcours de journaliste, vous avez été confronté à ce lexique. Nicolas ?
Je pense que c'est tout un tas de mots qui sont nouveaux dans nos vocabulaires, mais ce qui décrivent la réalité à laquelle sont confrontés les journalistes. Je pense que la situation est inédite, surtout que le corps de presse à Washington se disait, une fois qu'il sera à la Maison-Blanche, les choses vont changer, se normaliser. Ils ont vu dès le premier jour de la présidence que ce n'était pas le cas, que cette atmosphère de combat permanent, finalement, entre journalistes et président élu, allait continuer et continue maintenant au troisième, quatrième jour de sa présidence.
Et même dans les heures les plus sombres de l'histoire américaine, Adam Nociter, je ne sais pas, dans la période du McCarthyisme, est-ce qu'on s'est déjà confronté à une situation similaire ?
Non, pas tellement. Je suis d'accord que c'est une situation aux États-Unis totalement inédite. Mm-hmm. Par contre, dans l'histoire du monde, bien entendu, ce n'est pas inédite. On a vu de pareil. Si on cherche dans l'histoire, surtout dans l'histoire de l'Europe au XXe siècle, on trouve de pareilles situations. Ce qui nous laisse, nous journalistes aux États-Unis, pas totalement impréparés pour cette nouvelle donne.
Bien sûr.
Et on voit que les médias aux États-Unis, le mien inclus,
le New York Times,
le New York Times réagit d'une manière, je dirais, assez agressive et assez ils ont réagi assez rapidement à cette situation nouvelle. Je vous donne en exemple le fait que pour la première fois de notre histoire au New York Times, on utilise le mot mensonge, lie, sur la une du journal par rapport aux déclarations de Monsieur Donald Trump. On qualifie carrément dans les titres sur la une de mensonge les déclarations de Monsieur Trump.
Et ça aussi, c'est un glissement lexicologique de la presse, de la presse elle-même.
Absolument.
Et alors,
absolument.
Fait alternatif, hein, Dan Rather, je vous l'ai dit, a réagi par cette tribune publiée sur Facebook. Il qualifie la formule de orwellienne. Et moi, j'ai lu ce matin sur le site de FM Business, eh bien figurez-vous que les ventes de 1984, le roman de George Orwell, s'envolent aux États-Unis, qu'il est apparu soudainement en sixième position des ventes sur Amazon et que son éditeur Penguin va en réimprimer 75 000 exemplaires. Cette semaine, on réécoute Dan Rather et je vais vous demander comment concrètement vont faire les journalistes.
Écoutez, le Pakistan menace d'utiliser des armes nucléaires contre l'Inde. La Corée du Nord développe un nouveau missile capable de frapper les États-Unis, pour n'évoquer que ça. Nous avons d'énormes problèmes dans ce pays et nous avons besoin de respect mutuel entre la presse et ceux qui se trouvent à la Maison-Blanche. Il n'y a rien de plus important pour le président Trump qu'il développe une sorte de confiance entre les dirigeants et le peuple.
Bien justement, c'est cette confiance manifestement qui est atteinte. Le Washington Post a écrit que Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche, avait signé la mort de la confiance entre les journalistes et la Maison-Blanche. CNN a décidé de ne pas diffuser la première déclaration du porte-parole en direct, estimant que le rôle des médias s'était transformé. Nicolas Vinocur, comment est-ce que vous analysez justement cette transformation des relations et qu'est-ce que les journalistes vont être obligés de produire pour pouvoir s'adapter?
Je pense qu'ils doivent en quelque sorte tout réapprendre. Il y avait des conseils assez intéressants proférés par un journaliste qui couvrait Vladimir Poutine depuis un certain temps. Vous savez, il faisait des conférences de presse pendant 3 heures où le président vous noyait dans un flot de paroles et rendait impossible toute réplique. On ne pouvait jamais gagner, on ne pouvait jamais obtenir de lui. Ce qu'il a conseillé aux journalistes américains, et je pense qu'ils l'ont entendu, c'est de jouer en équipe, c'est-à-dire de poser des questions et ne pas passer à un autre sujet si on n'obtient pas de réponse, mais bien de se relayer les uns les autres et de dire non, il faut une réponse à cela, il faut une réponse aux fausses affirmations sur la taille des foules à l'inauguration, sur les fausses affirmations sur les soi-disant votants illégaux à la présidence, et les journalistes doivent se relayer les uns les autres pour obtenir des réponses claires, et on le voit à force d'insister, on l'a vu un petit peu dans l'entretien qu'a accordé Donald Trump hier, à force d'insister, on peut avoir on peut gagner des broutilles, mais pas grand chose finalement.
Adam Nociter, le New York Times renforce ses équipes sur place.
Oui, absolument. Déjà, on a doublé le nombre de correspondants qui vont couvrir la Maison Blanche. On a rappelé de Jerusalem notre chef de bureau qui est le plus expérimenté d'entre nous à couvrir les administrations.
Non, mais c'est considéré comme une situation d'urgence?
Absolument, absolument. C'est ça la consigne qui vient du quartier général du New York Times, que nous sommes dans une situation anormale et il faut réagir et répondre dans ce sens-là. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le contexte américain, c'est vrai que c'est inédit, mais c'est pas totalement inconnu, puisque si on remonte à l'époque de Nixon, par exemple, dans les années 70, Nixon était une ennemie déclarée de la presse, et il a dressé même des listes d'ennemis dans la presse. Donc la presse était dans un état d'opposition farouche contre Nixon et a dû se nourrir auprès des sources totalement hors du pouvoir.
Ah justement, ça c'est très intéressant parce que, oui, je vous en prie.
Alors, je crois qu'on entre dans une ère similaire. Et déjà, on voit des signaux de la part, par exemple, des grandes bureaucraties aux États-Unis qu'il y aurait des gens qui vont fuiter d'une manière assez consistante. Donc,
qui vont faire fuiter l'information, en fait, qui vont la faire circuler.
Absolument. Qui sont déjà entrés dans une sorte d'opposition à la Maison-Blanche.
Ça, c'est très intéressant parce que justement, le site d'information Politico pour lequel vous travaillez, Nicolas, a écrit très récemment que, à sa manière, Donald Trump nous libère, parlant de nous, les journalistes. Les journalistes devront explorer les informations en dehors de la Maison-Blanche ou autrement. Il est temps de passer derrière les lignes ennemies, un vocabulaire guerrier. Hein.
Oui. Alors, tout à fait, ça colle avec... j'ai demandé à une collègue qui couvre la Maison-Blanche de me décrire. Elle me dit ce que vous voyez pendant la conférence de presse avec Sean Spicer, c'est la même chose qui se passe quand les caméras ne sont pas allumées. C'est-à-dire, c'est impossible, c'est compliqué. Même les rapports les plus simples, procéduriers avec cette administration sont compliqués et sont sur cette ambiance un peu conflictuelle. Donc, effectivement, on va aller chercher du côté des opposants, du côté des sénateurs, des membres du Congrès, toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir donner de l'information, abreuver la presse, vont devenir les sources privilégiées et les sources officielles. Eh bien, on sera peut-être obligé de s'en passer dans une certaine mesure.
Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est tenable ? Adam Nociter, vous parliez de cette opposition vécue sous l'ère Nixon entre les médias et la Maison-Blanche. Mais là, on voit bien que Donald Trump divise les médias entre eux. Il y a clairement les médias traîtres, hein, en tête desquels BuzzFeed, CNN et consorts.
Nos deux médias, je pense.
Voilà, vos deux médias, le New York Times, le Politico, très, très certainement. Et puis, il y a les médias affidés, ceux qui ont droit à la première question, comme LiveThat, un site d'information fondé par une journaliste américaine conservatrice, qui a d'ailleurs elle-même été un temps pressentie pour être porte-parole de la Maison-Blanche. Donc, on voit qu'on monte les médias les uns contre les autres. Adam Nociter, ça veut dire que les uns auront droit à un canal d'information officiel auquel les autres n'auraient plus le droit ?
Oui, mais je crois que cela n'aurait pas beaucoup d'importance à la longue, parce que on voit très clairement que les sources officielles d'information maintenant, aujourd'hui, n'ont aucune crédibilité. Tout le monde dans le monde consciente a pris acte de cela. Et cette perte de crédibilité, je dirais, est irréversible. On sait désormais que tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump est suspect, sinon mensongère. Et donc, cela n'aurait pas beaucoup d'effet, je crois, sur...
Mais en même temps, ce qui sort de la bouche de Donald Trump est relayé par des médias extrêmement puissants. C'est-à-dire que cette nuit, Donald Trump a donné sa première interview télévisée, c'était sur ABC. Enfin, il faut l'écouter quand il parle de la Fox, de Fox News, ces chaînes d'information conservatrices. Il dit « Turn on Fox News », zapper sur Fox News. « This is a state media », un média d'État quasiment, Nicolas Vinocchio.
Oui, c'est précisément le diviser pour mieux régner. Il a nominé des médias qui étaient ceux qu'il aime bien. On le sait bien. En plus, il regarde que principalement la télévision. Donc, c'est souvent Fox News contre CNN, ABC et autres qui ne lui plaisent pas. Je pense effectivement les médias. On nous pousse vers une polarisation à l'extrême où d'un côté il y a zéro accès, zéro interaction ou même des rapports conflictuels où on va carrément épingler des journalistes individuels devant les autres pour les humilier en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, des journalistes inféodés. Je pense qu'on n'est pas encore sorti de la surcouverture de Donald Trump, l'espèce de fascination un peu terrifiée que nous avons de ce président. On est toujours en plein plein dedans. Ça a continué sans interruption depuis la campagne. Mais certains réseaux, comme vous l'avez dit, CNN, se posent des questions là-dessus.
Alors, je vous propose d'écouter Donald Trump s'adressant à la foule durant l'un des bals d'investiture.
Juste une question. Est-ce que je dois continuer à utiliser mon compte Twitter ou pas? C'est ce que je pense aussi. Mais vous savez, les ennemis continuent de dire « Oh, mais c'est horrible !» Mais vous savez, c'est une façon de contourner les médias malhonnêtes.
Alors, d'un côté, il y a cette façon de contourner les médias malhonnêtes, selon Donald Trump. De l'autre, il y a le Washington Post et le New York Times, Adam Nociter, par exemple, qui enregistrent de très fortes hausses d'abonnements. Vous gagnez des lecteurs pendant ce temps-là.
Absolument. On a connu un embelli dans nos abonnements absolument insolite dans notre histoire. 250 000 nouveaux abonnés depuis l'élection de Monsieur Donald Trump. Ce qui veut dire, ce qui me dit à moi que mes concitoyens aux États-Unis ont un grand besoin de la vérité, du journalisme pratiqué à l'ancien, fouillé et sérieux. C'est bien trop tôt pour dire que Donald Trump va gagner ce pari. C'est clair que des milliers d'Américains se rendent compte que ce qui sort de la Maison Blanche maintenant n'est pas crédible. Et il faut impérativement qu'ils ont l'alternative, c'est-à-dire la vraie vérité.
La vraie vérité, en tout cas une information travaillée et vérifiée. Nicolas Weinocur, vous vous attendiez à ce que le président continue de tweeter comme il le faisait pendant la campagne, une fois investi ?
Personnellement, j'étais surpris, mais quand on regarde de près le personnage, quand on comprend la stratégie qui est en place, c'est-à-dire de cette la guerre permanente, la campagne permanente, l'agression permanente envers des ennemis qu'il vient de citer, il ne faut s'étonner de rien. Il ne faut pas s'étonner que les thèmes de campagne deviennent les thèmes de la présidence, que le Twitter de la campagne continue pendant la présidence, que les fausses informations continuent pendant le mandat présidentiel. On va être dans cet esprit de conflit, de tension, et je pense que Adam a tout à fait raison. Cela crée une envie, une soif d'informations fouillées, de fond, qu'on voit émerger avec des reportages, des investigations remarquables dès à présent sur l'univers, ou parfois aussi même la popularité en ligne qu'on met en question de Donald Trump. Qui sont ces personnes qui relaient les informations, qui sont ses soutiens? Tout ça va être examiné de plus près, et les lecteurs sont en grande demande.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que Politico est depuis presque deux ans maintenant implanté en Europe, à Bruxelles. Ouais. Et puis je rappelle aussi que le New York Times s'invite tous les mercredis avec quatre pages traduites en français dans Libération.